depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à la fréquence de la paix qui vous propose ces nouveaux numéros des paroles aux auditeurs, votre magazine d'échange et de partage. Des messages incitant à la haine tribale et à la xénophobie sont de plus en plus utilisés dans les médias classiques, dans les réseaux sociaux et dans les discours de certains acteurs sociopolitiques. Ce constat a été fait par plusieurs organisations non gouvernementales telles que Azado, ACAJ, ainsi que la MONUSCO et la CENCOM. Ces organisations fustigent ces phénomènes. Et de l'autre côté, le député national Gary Sakata, par exemple, a initié une proposition de loi contre le tribalisme, la xénophobie et le racisme. Cette loi, selon l'élu, vise à renforcer l'authentique cohésion nationale et à promouvoir les conditions propices du vivre ensemble. Que faire pour mettre fin à cette situation? 081-890-4969 sur le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine et mise à nom de par Hippolyte Kapanga. Jocelyne Mukendi est à la réalisation et quant à moi, Pierrot et la Meiji, c'est un réel plaisir de vous retrouver encore, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meiji.
Rappelons que dans un rapport, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme s'était penché sur cette question où il avait noté qu'entre le 1er mai et le 31 décembre 2020, le Bureau conjoint avait reçu 30 cas probables de discours et messages incitatifs à la haine qui ont été analysés sur base de six critères établis par les plans d'action des rabats du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme sur l'interdiction de tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence. Et nous avons en ligne le professeur Gary Sakata. Merci de nous avoir rejoints dans cet échange. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Je vous parle à partir de ma circonscription électorale de Bagata.
Ah, ça c'est merci beaucoup, c'est très bien. Alors, vous êtes professeur de droit, député national. Avant peut-être de revenir à la situation, comment expliquer d'abord cette exacerbation de messages de la haine, de tribalisme, d'intolérance, que ça soit sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi dans le média classique. Comment expliquer cette exacerbation de ce message?
Mais à vrai dire, je ne sais même pas pourquoi justifier, pourquoi en cette période il y a exacerbation de cette situation. Mais je crois que c'est dans l'air du temps. Et mais c'est parce que aussi les personnes, les autorités politiques, les autorités publiques, ainsi que les autorités judiciaires qui sont chargées de réprimer dans ces actes ne le font pas de manière suffisante. C'est pour ça que les gens croient que tout ça est permis. Et ça, nous devons le combattre.
Alors, quand vous dites qu'il y a, parce qu'on ne réprime pas, c'est une question d'un certain désintéressement, mais aussi il y a un phénomène en termes de culture et d'éducation.
Mais vous savez, la question du tribalisme, c'est une question, pas que le tribalisme, vous savez. Moi, je parle du tribalisme, du racisme et de la xénophobie qui constitue un critique qui est dangereux. C'est quelque chose, en fait, c'est une anomalie qui tue à petit feu. C'est que les gens ne s'en rendent pas compte lorsque vous commettez un fait qui peut paraître peinant a priori, mais plus tard, ça s'exacerbe parce que vous avez eu un entretien, un échange assez sulfureux avec une personne. Vous ne savez pas qu'à l'issue de cet échange, d'autres personnes vont intervenir parce que faisant partie de la même tribu, du même clan, du même village, ainsi de suite. Donc c'est un phénomène dangereux qui s'éteint et se propage un peu plus vite, créant ainsi des dégâts très très importants à la société.
Alors, monsieur le député, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, parce que quand on regarde notre loi par rapport au pluralisme politique ainsi que à la tenue des élections, aujourd'hui, chaque personne a tendance à rentrer pour aller postuler à sa base, cela veut dire dans son milieu naturel, dans son clan, tribu, que ce soit l'élection aujourd'hui des gouverneurs, on le voit, quelqu'un ne peut être gouverneur que chez lui, dans sa province, même si ce n'est pas, cela n'est pas dit sur le plan juridique, est-ce que d'une manière tacite, cela ne consacre-t-il pas ces régionalismes où chacun se sent qui doit plus appartenir à sa tribu, à sa province, même sur le plan politique, et dès lors que la personne n'a pas de la même opinion, et directement ça crée ces hostilités et ces tribalismes publics?
Alors, la question que vous posez comporte une double phase. La première phase, c'est là où vous dites que chacun va postuler. Pourquoi chacun va postuler chez lui? Attention, là, je crois qu'on doit faire un distinguo entre le tribalisme qui est un vice et ce que moi j'appelle dans ma propre position la tribalité qui est la promotion des valeurs culturelles d'un certain milieu. Ça, en fait, c'est pas interdit. La loi contre le tribalisme n'interdit pas de faire la promotion de certaines valeurs culturelles qui sont les nôtres. Ce qui est interdit, c'est de se considérer que certaines tribus puissent vouloir se considérer comme étant supérieures aux autres. Mmh. Ou de l'avoir pour critère de désignation, de choix ou de politique que sa propre tribu. C'est ça qui constitue un problème. Mais la tribalité, comme je l'ai défini dans ma proposition de loi, n'est pas interdite parce que nous devons quand même, à un certain stade, promouvoir nos propres cultures pour aller l'avant. Alors, les gens posent des candidatures dans leur circonscription respective, dans leur milieu respectif. À mon avis, ce n'est pas tellement ça la question. Par contre, il n'est même pas interdit que quelqu'un d'autre aille postuler. C'est une question d'évaluer les chances. Ça, ce n'est pas tellement invite, ça, à mon avis. Hein. Essayer d'aller postuler dans le milieu qui est sien de manière naturelle.
Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, parce que vous vous êtes aussi posé la question de savoir pourquoi il y a cette exacerbation, est-ce que la pratique politique en termes de discours peut aussi être un élément déclencheur de cette intolérance sur le plan tribal?
Oui, mais le principal élément déclencheur de la question du tribalisme, ce sont les discours à caractère politique. Mm-hmm. Et puis, s'il ne faut pas entendre discours à caractère politique, uniquement les discours du gouvernement central. Ces discours peuvent se faire au niveau d'un chef de groupement, ces discours peuvent se faire au niveau d'un chef de secteur, ces discours peuvent se faire au niveau d'un administrateur de territoire, d'un ministre, d'un gouverneur, ainsi de suite. Et cela est plus important d'ailleurs, et plus important d'ailleurs dans les milieux locaux au niveau de nos groupements. Vous allez entendre que les gens de tel groupement se battent contre les gens de tel groupement, les bêtes se battent contre les bâmes à cela, ainsi de suite. Donc, c'est principalement les discours à caractère politique. Qui est en œuvre pour créer plus d'actes de haine et de tribalisme. Mais pas seulement dans les cadres politiques. Hein. C'est souvent, et ici dans notre pays, vous allez bien voir, que dans les milieux scolaires, les milieux académiques, c'est vraiment le fleuron de la promotion du tribalisme dans tous ces milieux, dans les milieux professionnels. Donc que les gens ne se trompent pas en étant que dans le cadre politique, dans les milieux académiques, c'est même parfois plus important et dans tous les autres milieux.
Exact, voilà. Alors maintenant, vous avez initié cette proposition des lois, les débats y allaient, les éditeurs sont nombreux sur notre standard. Mais revenons d'abord maintenant à votre démarche. Est-ce que pensez-vous qu'une proposition des lois telle que vous l'avez initiée va vraiment contribuer à la réduction de ces phénomènes, ou carrément, on peut peut-être pas dire l'éradication?
Alors, il faudrait d'abord que je reconnaisse que il y a une loi de 1966 qui parle du tribalisme et du racisme. Mais cette loi avait eu un but, parce qu'à l'époque, on avait créé 26 provinces, ou je ne sais pas combien, autant de provinces, comme on l'appelait à l'époque, qui étaient ramenées à 9 ou à 11. À 9. Et c'est pour ça que le président, à l'époque, une telle loi avait été mise. Le racisme, à l'époque, qui datait déjà de 1961, c'était là où il y a un bar où les blancs entrent à gauche, les noirs entrent à droite, et ainsi de suite. Ce n'est plus d'actualité. J'ai voulu donc aménager, donc rendre actuelle la question, la répression ou la prévention. L'élément important, c'est la prévention. Okay. Je voulais rendre actuelle la prévention contre les actes de tribalisme. Mais pas seulement, parce qu'on ne peut pas parler du tribalisme tout court. Il y a un élément plus important que le tribalisme, qui est plus englobant que le tribalisme, c'est la xénophobie. Oui. Moi, j'ajoute, au-delà du concept qui était prévu en 1966 sur le tribalisme, j'ajoute ici le concept de xénophobie. Parce que, comme vous le savez, dans le pays, lorsque vous promenez maintenant, vous entendez beaucoup de gens aimons-nous. Ça veut dire qu'on se rend bien compte que les gens ne s'aiment plus, l'humain ne s'aime plus l'autre. Alors, c'est pour ça que nous sommes obligés, cette proposition de loi semble être fondamentale, pour tenter de réduire ce phénomène qui est dangereux pour l'avenir de notre société. Mmh.
Mais est-ce que, parce qu'on parle de la prévention en dehors de la répression, est-ce que la proposition de loi aborde l'aspect éducation?
Oui, l'aspect éducation est abordé parce que je suggère la création d'un organisme pour gérer les cas tous les actes de xénophobie, de tribalisme et de racisme. Et c'est cet organisme-là, c'est cet organisme qui sera chargé d'assurer, à titre principal, l'éducation. Mm-hmm. Mais, à titre principal, d'énumérer aussi les actes de tribalisme. Mais, ça, c'est un organisme qui va être créé. Mais en soi, dans l'idée principale de la proposition de loi, c'est que l'éducation doit se faire au niveau familial, au niveau scolaire, au niveau académique et dans le milieu professionnel. Mmh.
Voilà, donc, on revient.
À ce niveau-là que nous devons aborder la question de prévention contre le tribalisme et la xénophobie.
Merci. On revient à vous, Monsieur Gary Sakata, professeur et député national. Il y a beaucoup d'auditeurs de Radio Capi qui nous rejoignent dans cet échange. Hein. Christian est ici à Kinshasa et François est à Mweka. Christian, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour Pierrot et bonjour à l'invité.
On vous écoute, Christian.
Merci de la parole accordée. D'emblée, je dirais déjà le fait que plusieurs structures et organismes ont pu faire les constats, c'est vraiment un signal très fort. Et il faudrait vraiment que ces organismes, notamment la Radio Capi, qui a la facilité de dénicher ceux qui font l'apologie du vieil démon, puissent également les sanctionner. Les distribuer à une carte d'embargo qui ne passe pas sur vos ondes, ça serait une bonne chose. Et donc, je crois que Pierre Lamézi, la plus belle des manières pour endiguer ces vieux démons, il serait également de procéder par des sensibilisations, les campagnes de sensibilisation, afin de faire comprendre aux uns et aux autres que, le fait d'avoir plusieurs tribus, les ethnies, la race, etc., etc., c'est vraiment une richesse inépuisable. Une richesse inépuisable, contrairement aux matières premières qui sont parfois des richesses fongibles dans une certaine mesure. Et donc, il faudrait vraiment faire comprendre aux uns aux autres que l'interdépendance et la complémentarité d'une tribu à une autre doit être mise en exergue afin justement de démontrer à nos concitoyens que le vivre ensemble est inévitablement une obligation de naître sur la terre des hommes. Donc si vous ne voulez pas vivre avec les autres, eh bien mourrez, acceptez de mourir. Mais si vous vivez, eh bien il faut accepter qu'il y ait d'autres cultures, il faut accepter qu'il y ait cette complémentarité-là, il faut accepter qu'il y ait des jaunes, qu'il y ait des noirs, il faut accepter qu'il y ait d'autres tribus. C'est en fait cette toute litanie des tribus qui font en sorte qu'il y ait une certaine harmonie. Je me dis, mais même dans l'arche de Noé, Jésus a permis à ce qu'il y ait des animaux et des hommes dans l'arche de Noé, mais cependant il y avait l'harmonie. Mais comment si dans l'arche de Noé, qui arrivait justement à accepter les différentes espèces, il y avait l'harmonie, mais pourquoi pas ici sur les terres des cieux, la terre des hommes? Et donc la loi que propose justement notre invité, je dirais que cette loi tombe à point nommé. Elle viendra maintenant aussi faire, justement, encadrer toutes ces vertus et enfin de prévenir les dérapages qui pourraient survenir. Mais au-delà de ça, il faudrait également signaler le fait que si aujourd'hui nous vivons cet état des choses, pire, mais c'est parce qu'il y a eu une certaine inanition de la famille. La famille n'est plus en fait considérée comme étant la cellule de base. Et c'est vraiment l'une des causes de l'aggravation de cette crise sociétale. Mmh. Et donc aujourd'hui, nous constatons que nous vivons dans... Le peuple vit dans une société où il est lui-même, en fait, je dirais, en contradiction, où il est en perpétuelle compétition. Il est vraiment... son environnement devient en fait un lien ou encore son véritable adversaire.
Mmh. Alors si on vous suit très bien, Christian, si on vous suit très bien, vous avez évoqué l'embargo sur les médias de personnes qui tiennent le propos de la haine, les propos du tribalisme, vous l'avez dit, c'est pourquoi même le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a demandé, même d'ailleurs, il y a des recommandations dans son rapport qui s'adresse aussi au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Mais vous estimez que la base de tout doit être la famille. Merci beaucoup,
oui, pour
Christian.
Pour finir rapidement,
oui.
Il faut également dire que si aujourd'hui nous vivons cet état des choses, c'est parce que les politiques en sont derrière. Ils ont peur, en fait, qui sont des tireurs de ficelles pour tout ça. Allez-y, allez-y comprendre que justement, au lendemain des élections de 2018, qu'est-ce que ces élections nous a donné? C'est à cause justement du discours qu'ont tenu les hommes politiques. Donc demain encore nous irons aux élections, nous nous craignons que cet état des choses revienne. C'est vrai, la loi viendra, mais est-ce que cette loi sera-t-elle appliquée?
Et là, merci beaucoup, merci Christian.
La loi, cette proposition,
oui, voilà. Vous estimez que d'abord, il serait mieux qu'on puisse déjà l'examiner, pourquoi pas l'adopter, promulguer la loi, parce qu'il y aura encore élection et on a vu que à la poche ou après ou pendant, avant et après les élections, il y a cette montée de l'intolérance, vous l'avez dit. Alors, il y a le rôle des médias, le rôle des politiques et de la famille. Merci beaucoup, Christian. François, vous êtes à Bouéka. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Pierrot et la Mégie, merci Fadi Plissa à vous-même et aussi à Madame Jocelyne. Je salue l'honorable Gary Sakata qui est avec vous dans les studios.
On vous écoute.
Monsieur Pierrot, par rapport à cette thématique qui est en débat, le tribalisme est devenu monnaie courante en RDC avec l'avènement du découpage territorial en 2015. Il serait mieux que le gouverneur et les ministres provinciaux soient les nains originaires, Monsieur Pierrot. Car tous les services provinciaux sont victimes de la haine. Tribalisme, anti-valère. Je voulais vous rappeler quelque chose. À l'époque du régime Mobutu, un gouverneur de la province orientale pouvait quitter Kisangani pour venir gérer au Kasai Oriental, par exemple, à Kananga à l'époque. Et aussi, c'est là vice-versa. Que la constitution soit révisée pour cette fin. La société civile, les médias.
François, constitution n'a pas dit qu'un gouverneur, pour être élu, doit être originaire de la province. C'est d'une manière tacite que les gens le font. Cela veut dire que quelqu'un peut quitter le Kasaï central ou Kasaï pour aller postuler en province orientale. Il peut postuler à l'Équateur, quitte à être élu sur son projet de société, parce que le gouverneur était nommé dans les temps. Mais ici, la constitution n'a pas imposé que la personne ne soit élue que dans sa province comme gouverneur.
Exactement, c'est ça, vous avez raison. La constitution, c'est la loi fondamentale qui définit certains principes d'une manière générale, mais il faut qu'il y ait des lois particulières de loi organique comme l'a proposé l'honorable là. Donc je vous dis qu'il faut qu'il y ait une loi particulière qui renforce, qui met à l'écart ce genre de tribalisme. Mais c'est pourquoi j'étais en train de continuer avec mon idée, c'est pour dire que d'après moi, j'aimerais à ce que la société civile, les médias ainsi que les ONG devraient s'engager dans la campagne de lutte contre les anti-valeurs. Bref, la loi Gary Sakata est la bienvenue car elle va renforcer l'authentique de la cohésion nationale. Cela demeure une problématique nationale dans la quasi-totalité des provinces. Récemment, au Kasaï central, M. Pirot, la régie financière de GERCAC, Direction générale des ressources du Kasaï central, a connu beaucoup de problèmes liés aux anti-valeurs et au tribalisme par le gouverneur de Chi, Martin Kabuya, en révoquant 90% des agents et cadres de la BMR sous le gouverneur Trésor Cap Congo, et que lui a trouvé. Hélas, au Kasaï chez nous, là, je me trouve ici. Parce que lorsqu'il y a eu démembrement, en 2015, moi, j'étais à Ilebo, et quand on a découpé, il y avait, je me souviens à l'époque du vice-premier ministre de l'Intérêt, il avait dit, il y avait une circulaire qui disait, pour les services provinciaux, si vous vous retrouvez dans un district qui est devenu province, de fait, si vous voulez rester, tant mieux, si vous ne voulez pas rester, vous partez. Mais nous, à cette époque-là, nous étions à Ilebo, et de fait, on devait appartenir à la province du Kasaï. Dont le chef lié à Tshikapa. Mais sans tenir compte de notre originalité, j'ai salué le comportement du gouverneur Marc Manyangandambo. À l'époque, lui, quand il est venu, l'ancien district du Kasaï, tous les enfants de la DGERCOC et cadres, de plus que nous étions là, nous étions restés au Kasaï sans tribalisme. Et quand le gouverneur Marc Manyangandambo est venu, il nous a nommés. Il n'a pas tenu compte que nos Kounjés de la province de Sankourou, il était au Kasaï central. Non.
Voilà. En fait, c'est cette idée-là, sans pouvoir citer les personnes et les indexer, parce qu'ils ne pourront pas se défendre dans cette émission, François. Alors, n'est pas aussi accuser les gens, estimant qu'ils avaient permuté les uns et les autres parce qu'ils n'étaient pas originaires de ceci. On sait qu'après les découpages, il y a eu vraiment ces problèmes où les agents de l'État qui se sont retrouvés dans d'autres provinces étaient obligés de pouvoir aller parce qu'il faut aller dans votre province. Voilà, c'est un peu ça. Et vous dites que, avec une loi spécifique comme celle du député national Gary Sakata, on peut résoudre ce genre de questions pour que les gens ne soient pas indexé dans une province par rapport à leur appartenance. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup. Alors, nous avons encore en ligne Monsieur Jackson Aoussé. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Et vous, vous êtes député national élu d'Irumu. Nous avons aussi comme invité dans cette émission le député national Gary Sakata, auteur d'une proposition de loi sur la question de tribalisme, xénophobie, racisme et intolérance. Alors vous êtes un acteur politique. Vous avez suivi tout à l'heure un auditeur qui disait « Le discours politique a aussi plus exacerbé hein, le conflit, l'intolérance et cette question du tribalisme. » Alors vous, en tant qu'acteur politique, quel pourrait être aujourd'hui l'apport de l'homme politique dans la lutte contre ce phénomène d'intolérance, de tribalisme?
L'apport de nous, hommes politiques, n'est pas à philosopher là-dessus. L'apport est très clair. La Constitution est très très claire à cette matière-là. Bien sûr que la loi de notre collègue Denis Akata est aussi la bienvenue, il faut que cette loi puisse venir, mais déjà, avant que même cette loi-là ne soit là, notre Constitution est claire. Quand la Constitution vous dit que dans la composition même des gouvernements, dans la composition même des institutions d'appui à la démocratie, il faut qu'on tienne compte de la représentation nationale. Mmh. Donc déjà, cette idée-là dit que quand vous voulez mettre en place une structure, il va falloir que la représentation de province soit équitable. C'est cela le débat. C'est parfois quand nous voulons nous écarter des principes existentiels, c'est là où nous tombons dans ces pièges-là de tribalisme, de ceci ou cela. Donc moi je pense que dans notre pays, c'est un pays vraiment... comment est-ce qu'on peut qualifier notre pays? C'est un Eldorado culturel où nous avons plus ou moins 450 tribus et tout et tout. Donc c'est très difficile qu'une seule tribu ou bien une seule communauté puisse c'est imposé sur toutes les autres communautés. Nous sommes obligés de cohabiter, nous sommes obligés de travailler ensemble, de vivre ensemble. Et nous, hommes politiques, tenir les discours divisionnistes, moi je pense que ce n'est pas être cohérent de nous-mêmes. Parce que avec cette diversité communautaire, croyez-vous que moi là, comme je suis ici, de par ma tribu réellement, je peux devenir député? Non, je ne peux pas devenir député moi à Ousse aujourd'hui par le simple fait d'appartenir à une tribu. Je suis député aujourd'hui, il y a eu plusieurs communautés, plusieurs tribus qui ont concouru à mon élection et je suis devenu comme ça. Et maintenant, après que je sois élu, que je commence à tenir des discours divisionnistes, moi je pense que c'est s'ignorer. Là, on est ignorant de nous-mêmes. Donc nous, politiques, notre existence, n'est-ce pas, s'explique à travers la cohésion de toutes ces communautés, de toutes ces tribus. C'est à cause de cela que nous sommes ce que nous sommes ici. Ce pays restera un et indivisible parce que plusieurs forces internes ou externes qui ont tenté de diviser ce pays n'ont pas pu. C'est pour cette raison, je dois nous interpeller, nous politiques, parce que tu as posé la question, comment est-ce que nous politiques, nous pouvons contribuer à la cohésion nationale? Moi, je pense qu'il faut alerter les hommes politiques que aucune tribu n'est spéciale, aucune communauté n'est supérieure aux autres communautés. Nous sommes tous égaux, nous sommes tous égaux, et notre sens, nous avons le sens que quand ces communautés conjuguent, quand ces communautés convergent, c'est là notre force. Donc moi je pense que le discours divisionniste est contraire à notre constitution, parce que notre constitution, dès le premier article jusqu'au dernier article, nous amène à la cohésion, nous prêche la cohabitation, nous prêche la vie d'ensemble. C'est ça notre richesse, c'est ça notre particularité par rapport aux autres sociétés, cette multitude. Tous les pays qui nous entourent, c'est neuf. Dans tous les pays qui nous entourent, vous n'allez pas trouver le nombre de tribus, le nombre de communautés comme chez nous. Dans d'autres pays, il n'y a que des communautés, des tribus et tout, mais chez nous ici, nous sommes au-delà de 400. D'ailleurs, c'est minorisé. Si on comptabilisait bien, nous pouvons aller jusqu'à 500. Donc, c'est notre particularité et c'est notre richesse. Moi, je pense que cette diversité doit pouvoir nous aider à aller de l'avant.
Et d'ailleurs, il y a notre compatriote Christian qui disait tout à l'heure.
C'est nous, politiques.
Oui. Alors, je parlais de la politique tout à l'heure avant de vous libérer, mais il y a aussi cette question de l'éducation et cette question de la famille. Christian estimait tout à l'heure que c'est une...
Nous ne sommes pas grands. Nous ne sommes pas grands en faisant ça. Nous sommes politiques dans un pays grand sur le plan des superficies, dans un pays immense sur le plan de la richesse culturelle, et donc nous devons fonctionner vraiment à toutes conséquences. Je termine à 10 ans.
Oui.
Les institutions de la République. Nous sommes aujourd'hui autour des 60 ministères et tout et tout. Voyez-vous, c'est aussi ça le problème. Vous allez voir qu'il y a d'autres provinces qui sont sous-représentées et d'autres provinces qui sont quasiment non représentées. C'est déjà une source de problème. Pourquoi ne pas donner un ministère dans toute la province? Nous en avons 26, et après, on peut toujours arriver à équilibrer. Donc, c'est-à-dire, nous, les politiques, en commençant par le président de la République, en passant par le gouvernement, en passant par le Parlement, nous devons être conséquents que nous sommes à la tête d'une nation.
Merci.
Qui est très immense, qui est très complexe, et par conséquent, nous devons en être vraiment très conséquents dans
merci
nos prises
beaucoup.
De décision, dans nos prises de position.
Merci beaucoup, Monsieur Jackson Aous. Vous êtes aussi député national élu du Rumu. Vous avez insisté sur le fait que la diversité, n'est-ce pas, de tribus dans notre pays, c'est une richesse et quelqu'un ne peut pas être élu. Vous l'avez dit, un homme politique ne peut pas être élu par une seule tribu. C'est beaucoup de personnes, beaucoup de tribus et la cohésion devait être le centre, le mot-clé et y compris aussi les partages équilibrés de responsabilités. Alors on va écouter Jérémy qui est à Lubumbashi. Et retourner auprès de notre invité pour qu'il puisse commenter les points de vue des uns et des autres. Jérémy, merci de nous avoir rejoints dans cette émission. Bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Pierrot. Bonjour également à l'invité. Je pense que les observations faites par l'Azado, Akaj, Monisco, voire Senko est à saluer à juste valeur parce que c'est depuis un certain moment qu'on constate cette gangrène en train de plus en plus à ancrer la population congolaise, mais je me dis, mais tout le monde est en train de regarder ce point-là avec un œil tout à fait impuissant, parce que je me dis, ça prend de plus en plus de l'ampleur à telle enseigne que nous sommes en train, je me pose moi la question, où est-ce que nous sommes en train de partir? Pourquoi nous devons tout juste, du coup, perdre nos valeurs? Alors, moi je me dis, je propose tout juste, parce que je vois que cette situation, vraiment, il est malheureusement mal perçue par tout le monde. Hein. Alors, cette situation, donc, relative par rapport à la haine tribale, vraiment, doivent normalement commencer d'abord par convoquer une conférence. Moi, je propose qu'on puisse convoquer une conférence où toutes les couches, toutes les institutions doivent être parties prenantes pour discuter de toutes ces questions afin de pouvoir sortir un cahier et donc c'est-à-dire qui doit n'est-ce pas recadrer certaines choses. Vous savez d'où viennent cette gangrène-là que nous sommes en train de décrire? C'est délibérément organisé par le politique congolais. D'ailleurs, j'ai vu, vous avez parlé de Monsieur Gary Sakata. Il est député, mais quand vous regardez les députés, quand ils rentrent dans leur base, qu'est-ce qu'ils apportent comme message? Alors, moi, je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, il faut vraiment restituer, et donc, c'est-à-dire, il faut reconstituer beaucoup de choses. Il faut refaire certaines choses au niveau de la législation congolaise. Alors, je préfère que, même dans les gouvernements provinciaux, qu'on puisse casser des gens qui ne sont pas originaires de ces provinces. Alors, là, c'est un fait, on va combattre ce point. Et je me dis, lorsque on élit un président de la République, c'est pour dire qu'il défend la cause de l'intérêt général du pays. Et par conséquent, même dans les institutions, on doit avoir un groupe hétérogène. Alors, ça veut dire dans un sens comme nous le disons pas. Et donc, ça veut dire la couche doit être composée, même pas le ministère. On regarde, qu'est-ce qu'on retrouve dans les ministères? Il y a des gens, c'est-à-dire c'est toute une famille là-bas, une chaîne de famille, le clanisme. Donc, en train de les remettre. Ce sont des points qui font à ce qu'on puisse favoriser le tribalisme. Or, on ne peut pas combattre le tribalisme par le tribalisme. Donc, par conséquent, nous devons, sommes interpellés, les autorités, à commencer par les sommets, jusqu'au plus bas, on doit chercher maintenant à poser les jalons. Donc, des valeurs sûres, on doit inculquer aux autorités que lorsque vous êtes élu, vous avez un mandat national et vous devez défendre toute la population congolaise et vous mettez de côté vos tribus, tout ce que vous avez là-bas. En ce moment-là, nous pouvons réussir sur ce point. Et alors, Monsieur Pierrot, il y a aussi un autre point très important. Quand vous regardez aujourd'hui, il faut commencer par dire, lorsque on place un ministre, il doit commencer, on doit définir clairement les choses au concret, c'est-à-dire ce qu'on doit faire concrètement, pas chercher à placer les gens de sa propre famille,
Ça dit qu'il faut qu'on ait aujourd'hui. Est-ce que cela peut ressortir dans la loi? Merci, merci beaucoup, Jérémy. Jérémy, vous estimez que même dans la formation aujourd'hui des cabinets ministériels, il faudrait que la loi puisse déterminer comment les choses doivent se faire. Merci beaucoup. 081-890-4969. 081-890-4969, c'est le numéro d'appel. Mais le débat s'étire également sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Et nous allons accorder la parole à notre invité d'un moment à l'autre.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de vous.
Habitants de toutes les provinces, Parole aux Auditeurs est votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Le intouchable, dans ces pays, n'existe pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux Auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Alors nous revenons à vous, Monsieur Gary Sakata, professeur de droit et député national. Vous avez suivi le point de vue de nos compatriotes. Chacun a pu aussi donner ce qu'il pense pour pouvoir combattre ces phénomènes. Quelle est votre réaction autour de ce qui a été dit par les compatriotes?
Les personnes qui sont intervenues, je me suis rendu compte qu'il y a une sorte, il y a clairement une unanimité autour de la lutte contre le tribalisme, le racisme et la xénophobie. Parce que j'ai entendu que chacun était en train de comprendre qu'il y a un problème qui existe et chacun à sa manière a tenté de suggérer des propositions qui sont, à mon sens, très très intéressantes. Alors, comme je l'ai dit dans le cadre de la proposition de loi, nous privilégions la prévention. Mmh. Et cette prévention doit se faire à travers l'éducation et la sensibilisation. Et cela, comme je l'ai dit, au sein de la proposition de loi, celle-ci doit passer par un organisme qui sera créé à cet effet, mais principalement et surtout la famille, les écoles et vous les médias. J'ai par exemple apprécié lorsque l'un des intervenants proposait qu'on puisse faire un embargo à l'égard de toute personne qui est en train de propager de propos haineux ou tribaux, c'est le fort tout court. On puisse saluer un sujet, une sorte d'embargo, ça c'est très, très intéressant. Votre corporation pourrait bien s'en occuper. Bon, la difficulté serait, bon, l'État, soit à travers l'organisme, pourrait également faire un suivi permanent, une veille permanente en ce qui concerne les réseaux sociaux, parce que ça sera l'une des attributions. Alors maintenant, à défaut de la répression, à défaut de la prévention, ou bien lorsque la prévention aura été proposée et que les gens seront endettés, alors il faudrait une répression forte et exemplaire. Quand vous prenez la proposition de loi, je suggère des sanctions, des peines très dissuasives qui feront en sorte que les personnes puissent éviter de se lancer sur cette voie. Alors j'ai encore entendu, ça c'est peut-être, certains intervenants sont revenus sur le fait que les ministres dans leur avis, oui, mais ça c'est un problème sérieux. Les ministres sont nommés sur base de leur parti politique. Et les partis politiques, selon la loi qui la régente, est constitué de l'ensemble des citoyens de la République démocratique du Congo. Mm-hmm. Il est quand même gênant de voir qu'une personne qui est désignée ministre, qui ne prenne que les gens de son pays ou même pas de sa province, mais sûrement de son territoire et parfois même de son secteur. Ça, c'est très gênant. Mm-hmm. Ça manque. C'est une entorse à la coalition et à l'unité nationale qui s'est fait à ce niveau. Mais pas seulement les ministres nationaux, les ministres provinciaux, le gouvernement de province, et j'en passe le plus bien. Donc, moi, j'apprécie à juste valeur toutes les interventions qui ont été, qui sont enrichissantes de mon point de vue.
Alors, mais vous avez évoqué tout à l'heure la question des réseaux sociaux. Rappelons quand même que on a cette difficulté même au niveau de la loi portant la liberté des presses, l'exercice de la liberté des presses. Les phénomènes de réseaux sociaux n'étaient pas encore considérés. On n'a pas une loi spécifique aujourd'hui. Je ne sais pas si on a vraiment une loi spécifique sur la question de la cybercriminalité, de tout ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux. C'est ça aussi la difficulté aujourd'hui pour réguler les contenus des réseaux sociaux, de tous les médias en ligne, alors qu'on n'a pas une loi spécifique sur la gestion de ces contenus.
Oui, mais je crois qu'il y a un collègue devenu ministre qui a proposé, qui avait proposé une telle loi, mais je crois que ça a été récupéré par le gouvernement. Ça, c'est vraiment le rôle du gouvernement. Mais en attendant, mm-hmm. il existe quand même des dispositions pénales dans le code pénal qui répriment tous les actes sans les nommer, sans parler des réseaux sociaux de manière expresse. Mais il existe plusieurs dispositions au sein de notre code pénal qui permettent au gouvernement, au gouvernement et à notre société publique, si ce n'est pas lui-même qui est l'auteur, ou carrément aux citoyens, de pouvoir s'en saisir pour faire respecter leurs droits dans tout ce que nous voyons, dans les propos haineux, les propos xénophobes, ou à caractère tribal que nous voyons dans les réseaux sociaux.
Alors, M. Gary, avant peut-être qu'on revienne encore au standard avec l'autre auditeur, et avant peut-être votre loi, est-ce qu'au niveau de notre code pénal, vous avez suivi notre ami de Mueka qui a posé la question sur les difficultés qu'ont connues les fonctionnaires, par exemple des régies provinciales qui, après les découpages. Mais alors, au niveau, on sait que la Constitution l'interdit, est-ce qu'au niveau du code pénal aujourd'hui, s'il arrive qu'une personne qui travaillait dans une province après découpage, avec tous les problèmes qu'on a eu, les agents qui devaient retourner dans leur province, est-ce qu'au niveau de la loi, ces genres de questions pouvaient être abordées en attendant que votre proposition de loi puisse être examinée et bien sûr adoptée comme le souhaitent la plupart de nos auditeurs?
Donc, dans le code pénal, vous voyez, ce sont des dispositions générales qui peuvent s'apparenter aux voies de fait, parfois aux propos diffamatoires, aux implications dommageables, mais ça, c'est un peu trop général. Donc, c'est ça l'intérêt de notre proposition de loi, parce que ça fixe les instances des nouvelles infractions. Donc, par rapport au développement de notre société sur ce genre de questions. Ce que prévoit le code pénal, certes, ça existe, on peut prendre ça de manière générale, ça appartient également au juge de pouvoir mieux l'interpréter, mais ça, c'est un peu général. Au stade actuel, il est important que cette proposition de loi passe pour qu'on ait des instances spécifiques à la situation qui se pose de manière générale à notre pays actuellement.
Merci, on vous garde en ligne, professeur Gary Sakata, député national. Il y a beaucoup d'auditeurs encore sur notre standard. Mais sur la page Facebook, les débats s'étient. Et également, il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont en train de s'exprimer, comme notre ami Augustin Boyo qui nous écrit en disant ceci. Nous sommes même victimes de ces antivaleurs là où nous sommes. La xénophobie devient de plus en plus virale avec l'allure où vont les choses. Nous avons le ras-le-bol. Même les politiques deviennent des pionniers. Christian Parker Mpakassa, sur la page Facebook, dit ceci. Déjà, les pratiques dans l'accès dans les institutions ou la nomination posent déjà un problème. Il faut qu'on puisse surtout d'une manière spécifique refuser et que l'accès à certaines postes de responsabilité soit fait en fonction d'appartenance à des provinces, à des tribus. Alors, nous avons encore en ligne d'autres auditeurs qui sont sur notre standard. Alors, nous avons Marie-Paul qui nous écrit, qui nous appelle de Kisangani. Marie-Paul, bonjour.
Bonjour à votre invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la Radio Capi.
On vous écoute, Marie-Paul.
Oui, monsieur le journaliste, la problématique est cernée par ces organisations citées, notamment toutes ces organisations, c'est une problématique fondée en RDC. Et si nous analysons toutes ces pratiques-là, ce sont des pratiques qui relèvent de l'incongruité, parce que il y a beaucoup de dispositions dans notre loi, dans notre constitution, qui interdisent aux gens, aux autorités, de recourir à ces genres de pratiques. Mais néanmoins, nous devons nous rappeler l'histoire. Alors, pendant l'époque de Mobutu, je pense que Mobutu avait réussi à éradiquer toutes ces valeurs négatives, parce que vous savez que Mobutu avait une politique de déplacer des gens par rapport d'aller dans des contrées dont ils ne sont pas originaires, et que tout le monde, il y avait quand même une certaine cohésion nationale, et on pouvait voir ça dans tous les pays, notamment pendant l'époque des Haïti. Mais lorsque le roi d'Israël Kabila est venu avec Afdel, on a senti les clivages ethno-politiques, pourquoi pas linguistiques, au point que tous tout a commencé à se répartir à partir de tous ces clivages-là. Et c'est de là que nous rimons dans ce rythme-là jusqu'à maintenant. Et ce même rythme a continué avec les pouvoirs des A plus 4 et des 1 plus 4 pendant l'époque des transitions. Et lorsque le président Kabila est arrivé aux affaires, et on a cessé avec la transition, cette histoire des clivages politiques et linguistiques a encore plus de l'ampleur, au point que on a commencé à sélectionner les gens, et lorsque on nomme un ministre, et le ministre doit d'abord commencer à recruter les leurs, et qu'on nomme un ADG, il recrute le leur, et tout ça, et cette histoire s'est encore beaucoup plus augmentée par rapport à la décentralisation. Lorsqu'on a décentralisé, la mauvaise compréhension déjà de la décentralisation a fait que les gens comprennent la décentralisation, les découpages, comme il s'agit d'une affaire, notamment de séparer les Congolais. Et ce genre de mentalité inculquée dans les chefs de population a produit des effets vraiment néfastes. Et on trouve même dans des provinces décentralisées, dans des entités territoriales décentralisées, et que les gens qui peuvent travailler dans ces entités ne sont que des originaires. Et quelque chose qui a vraiment coupé la cohésion nationale, ça c'est même si on ne le dit pas, la cohésion nationale n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'on est parti des mauvais départs. Nous sommes partis des mauvais départs, on n'a pas tenu compte des bien fondés qui devraient justement nous permettre dans la cohésion. Parce que vous savez, la diversité linguistique, la diversité ethnologique, la diversité des tribus, c'est une force pour une nation. Et nous avons des tribus qui n'ont pas assez de compétences, entre nous soit dit. Mais si on ne tient pas compte de la méritocratie et qu'on doit sélectionner des gens sur base de leur ethnie, sur base de leur, je ne sais pas moi, tribu, et je pense qu'on est en train de créer des fossés très profonds, des fossés très profonds à la nation. Et voilà pourquoi, à mon sens, je suggère que les gouverneurs de la RDC doivent plutôt instituer le régime de la démocratie, le régime de la méritocratie. Et on doit abandonner toutes ces valeurs négatives, parce que toutes ces valeurs-là ont montré les limites. Même avec la mauvaise compréhension de la décentralisation, nous sentons des limites, parce que si vous envoyez quelqu'un gouvernant dans son entité, et il va se comporter comme il est dans sa maison, et il est entouré de ses beaux-frères, il est entouré de ses belles-sœurs, il est entouré de ses frères, il n'aura pas la capacité de travailler avec la pression populaire. Et ça, l'État est en train de perdre. Et l'exemple ici nous a montré. Voilà pourquoi, si on institue cette mesure-là de la méritocratie, la mesure de la démocratie, on va éliminer toutes ces valeurs négatives, on va éliminer les tribalismes, parce que c'est toutes ces valeurs là, depuis que le monde a existé, n'ont pas produit des effets. L'ethnocentrisme ne répond pas. Mais si...
Et d'ailleurs, Marie-Paul, vous l'avez dit, quand je regarde aussi sur la page Facebook, il y a Maître Edmond qui vous rejoint en disant « La xénophobie et le tribalisme ont été amplifiés au Congo par les découpages de 2015 où chacun devrait comprendre qu'il faut rentrer dans sa province d'origine. Il faut travailler sur la mentalité, sur l'éducation. » Beaucoup de gens insistent sur ça sur la page Facebook. Emina Mwanda, vous êtes à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. Merci de nous avoir rejoint. Bonjour Emina.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi et à toute l'équipe de la parole aux auditeurs.
On vous écoute Emina.
La incitation là est servie par les réseaux sociaux avec ses avantages à ses utilisateurs ne pourrait aucunement manquer des conséquences plutôt néfastes ou satisfactoires aux individus. D'autant plus que personne ne peut se dépasser de son utilisation, qui par ailleurs occasionne des incitations à la haine, le racisme et le tribalisme et autres effets criminels dont beaucoup de personnes sont victimes, et la répression de l'auteur est difficile car celui-ci est caché derrière un mur à la longue causant de véritables dégâts tant matériels qu'humains, comme disait cet auteur. La cybercriminalité est une troisième menace mondiale après celle d'Hiroshima, d'où le vote de la loi Sakata par l'Assemblée nationale dans les délais raisonnables afin de prévenir le pire dans les futurs proches pourrait aider les gens parce que les gens sont en train d'utiliser abusivement, abusivement plutôt.
Les réseaux sociaux. Et là, d'ailleurs, Eminent, vous avez posé un problème, vous l'avez dit. Oui. Eminent, vous l'avez dit, la difficulté aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est des fois les gens créent des faux comptes, quelqu'un se cache derrière un compte, on ne sait pas comment les réprimer aujourd'hui, et vous souhaitez qu'il y ait un examen rapide de la loi Gary Sakata, on va lui poser la question pour savoir où sommes-nous aujourd'hui avec sa proposition des lois. En attendant, Maître Dumont nous a rejoint de Mbandaka, bonjour. Maître Dumont, bonjour. Alors, vous avez dit que la xénophobie et le tribalisme dans notre pays ont été amplifiés avec les découpages de 2015.
Oui, certainement, comme vous l'avez lu. Donc, pour moi, j'essaie un peu d'analyser cette question en tant que juriste. J'ai constaté que avant le découpage territorial, lorsque nous étions avec l'ancienne configuration de 11 provinces, cette question ne s'est posée pas plus parce que Mobutu nous avait laissé quand même un très bel héritage. Et voilà, avec le découpage où chaque député provincial, chaque député national, ou chaque citoyen devrait rentrer chez lui, servir sa province, c'est à partir de ce découpage que le problème de xénophobie et le problème du tribalisme s'est plus amplifié. Voilà, donc nous avons des textes, même si la loi du professeur Sakata, c'est une loi peut-être qui pourra venir pour amplifier certaines infractions qui peuvent être commises par voie de réseaux sociaux, par voie d'Internet. Mais en plus, vous allez voir que si vous prenez les différents textes pénaux qui existent, en tout cas, le législateur congolais réprimait la xénophobie il y a longtemps. Et même lorsque vous prenez la loi sur les télécoms, la loi de 2020, de décembre 2020 sur les télécoms, vous allez voir que cette loi également réprime la xénophobie, le tribalisme commis par voie de télécommunications. Voilà. Donc c'est cette question-là qu'on doit essayer de retraiter, cette question de découpage. Parce que actuellement, si par exemple vous voulez venir déposer une candidature chez moi à l'Équateur, moi je vais vous dire que non, voilà, vous n'êtes pas de l'Équateur. Alors que logiquement, c'est pas dans cette conception-là. Donc pour moi, je pense que on doit supprimer cette histoire de découpage pour que nous puissions revenir avec la configuration qui nous a été laissée par Mobutu et avec cette cohésion nationale que Mobutu a toujours prônée et ce qui doit continuer. Parce qu'à l'heure actuelle, je vous dis sincèrement, la xénophobie prend de l'ampleur et ça risque de créer de terribles troubles au sein de nos communautés. Mais avec des réseaux sociaux,
Alors,
ça pose
si
un
peut...
problème, comme vous l'avez. Oui.
Oui, si on peut regarder aujourd'hui, mais la question, par exemple, de l'éducation, de la sensibilisation, au-delà des considérations politiques, mais elle doit être assez intéressante.
Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que ça dépend de cette sensibilisation, de cette éducation qui doit être faite et que chacun de nous doit savoir que nous tous, Congolais, nous sommes un, nous formons une telle personne. Nous formons une telle personne. Voilà. Je voudrais également abonder sur les réseaux sociaux. Comme vous l'avez dit, ça serait un sérieux problème. Moi, j'ai fait des études sur la cybercriminalité. On a trouvé qu'il y a un sérieux problème. Tant que les personnes qui gèrent, les propriétaires des sites Facebook, WhatsApp et les autres, Twitter, ces personnes ne sont pas au Congo, tant que les réseaux mobiles ne parviennent pas à gérer ces sites-là, ça sera difficile de pouvoir réprimer ces personnes qui propagent le tribalisme à travers les réseaux sociaux.
Merci.
Donc, nous devons quand même trouver certaines solutions pour le législateur pouvoir coopérer aux États-Unis ou en France au niveau de ce service-là pour pouvoir déceler les personnes qui peuvent se lancer dans ce genre de comportements.
Alors, on va écouter le dernier auditeur, c'est Polydor, hein, et puis après, on va revenir à notre invité pour la conclusion. Polydor, bonjour.
Oui, bonjour, Radio Capé.
On vous écoute.
Okay. Par rapport à cette démarche que mènent les activistes des droits de l'homme, nous avons salué dans le sens que actuellement nous ne savons plus qu'est-ce qui se passe parce que cette histoire de xénophobie et de la haine tribale s'observe de partout à travers la République démocratique du Congo. Et ce qui est très étonnant, c'est de dire que même les autorités politico-administratives le savent bien. Et ils sont là, tout ça se passe au niveau des réseaux sociaux où les gens s'entretuent. Et cela ne permet pas ceux-là qui ne sont pas autochtones de la province de bien évoluer. Vous savez, pour que nous puissions parler aussi du développement, nous devons aussi tenir à compte de cette histoire. Beaucoup des investisseurs peuvent venir de partout à travers la RDC et sont libres de s'investir là où ils trouvent mieux afin de continuer aussi à contribuer pour le développement de notre pays. Les choses graves, avec cette histoire de la décentralisation, la haine tribale s'observe partout. Et à travers tout le service de l'État aujourd'hui, c'est cela qui se dit à Zamoté. Il suffit que de l'État être de cette province, c'est difficile même de travailler au niveau des services publics. Si on n'est pas autochtone, cette histoire-là nous voudrions aussi que l'effort qui a été fait pour ce qui est le cas, quand même on n'a pas connu, pas pour ça. La réponse requise, mais je voudrais que les zones de service de justice et ceux des députés et des églises, tous ensemble, puissent se mettre ensemble pour essayer d'éradiquer cette histoire. Parce que
Merci beaucoup, Polydor, vous l'avez dit, hein. C'est une question qui va au-delà, de toute activité. Cela veut dire qu'il faut, au niveau des nominations, au niveau de la politique, que qu'on soit assez regardant. Alors, on revient à vous, Monsieur Gary Sakata, professeur de droit et député national. On va terminer cet échange. Où en sommes-nous, d'une manière brève, avec votre démarche par rapport à la proposition de loi? Parce qu'il y a un auditeur qui a dit il fallait que ça soit examiné plus vite parce qu'on en a besoin.
Oui, la proposition de loi a suivi un parcours normal, mais quand même un peu long, parce que je l'ai déposé depuis le 16 septembre 2020. Il y a eu une forme d'oubli. Maintenant, c'est revenu. Les services spécialisés de l'Assemblée nationale ont rendu leurs avis, et qui sont, à mon avis, conformes. La proposition se trouve entre les mains du bureau de l'Assemblée nationale, à qui je demande de pouvoir la présenter à la plénière avec nos soucis. Donc c'est à ce niveau-là que nous en sommes. Donc nous attendons que le bureau, dans son calendrier, puisse mettre ça devant le bureau de l'Assemblée nationale. Mais je vais conclure en disant que les débatistes, mes chers frères, c'est un vice, c'est un machin qui grandit au fur et à mesure. Donc au-delà du découpage territorial tel que j'entends dire, au-delà même des nominations au niveau des cabinets, c'est un machin qui tourne, qui est un véritable vice par mesure où M. Joannis. Rendez-vous compte, lorsque vous êtes au niveau d'un secteur, d'un village, il y a une forme de tribalisme et de xénophobie qui existe, entre gens du même village.
Oui.
Vous êtes au niveau d'un secteur, il y a aussi un tribalisme qui existe entre gens du même secteur. Vous montez au niveau du territoire, vous allez encore au niveau de la province. Comme je le disais, si vous êtes à Kinshasa, tout le monde se dit, je suis Castellien, je suis de Bandundu, je suis de Kivu, mais lorsque vous descendez dans vos aéroports respectifs, chacun se place en rapport avec son territoire. Et lorsque vous arrivez au niveau des territoires, chacun se cantonne au niveau de son secteur. Du secteur, on se dit encore que je suis le seul groupement à cause. Donc, c'est un machin inutile qu'on doit combattre par l'éducation, la sensibilité, la sensibilisation plutôt, et le changement de mentalité. Je suis à côté de mes électeurs ici de Bagata, de Mandapai, et de Wamba, et de Jeune, et de Tomber, et de Kassai qui me suivent, et avec qui je suis, et qui vous suivent également, je salue par ailleurs.
Merci beaucoup, Monsieur Gary Sakata, professeur et député national. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Hippolyte Kapanga qui était à la mise en onde de ce programme réalisé par Jocelyne Mukendi. Quant à moi, Pierrot et la Mégie, je vous retrouve demain pour un autre numéro des paroles aux auditeurs. Cette émission, vous pouvez la réécouter et la télécharger sur www.radiocapi.net. Merci de votre fidélité. Au revoir.